Essentiellement, je suis une militante féministe et une travailleuse dans les groupes communs.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enfin, mon nom est Cyril Ekwala. Et là, vous suivez cette série, une des émissions de cette série que nous avons modestement et avec un petit clin d'œil à l'actualité, intitulée Entrevue confinée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une invitée. C'est Madame Alexandra Pierre, qui est la nouvelle présidente du conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je la reçois. Bonjour Alexandra.
Salut, merci de me recevoir.
Je dis auteur, je pense à militante féministe, organisatrice communautaire. Je peux ajouter activiste?
Pour moi, militante, activiste, je mets ça pas mal ensemble.
C'est la même chose?
Ouais, pour moi, c'est l'idée d'être engagée dans son environnement à petite ou grande échelle. Donc, ça a toujours fait partie de qui je suis. Les deux me vont bien.
Là, vous venez de dire, ça a toujours fait partie de qui vous êtes. Est-ce que Alexandra Pierre est militante depuis toute petite? À quel moment est-ce qu'elle tombe dans la marmite du militantisme qui va se décliner en militantisme féministe, en militantisme contre les injustices?
Bien, mon parcours est celle d'une personne qui a toujours été intéressée par la politique, notamment à cause de ma famille. Donc, ma famille, je suis née de parents haïtiens qui sont arrivés au début des années 70, comme beaucoup d'Haïtiens au Québec, pour fuir, certes, la Duvalier, donc le régime Duvalier, mais aussi parce qu'en Haïti, à ce moment-là, il y avait beaucoup de professionnels, je pense, professeurs, infirmières, ingénieurs, agronomes, qui étaient éduqués, expérimentés, qui étaient aussi francophones. Et à ce moment-là, le Québec recherchait des personnes comme ça pour venir bâtir. On était en pleine révolution tranquille, donc venir bâtir le Québec. Mm-hmm. Et mes parents... dans la conjonction de ces événements-là, à la fois Duvalier, à la fois la Révolution tranquille, sont venus à Montréal s'installer. Et ma famille n'était pas une famille militante en Haïti, mais toujours très intéressée par la politique. Du côté de ma mère, pas très militante, du côté de mon père, un peu plus, toujours intéressée par la politique. Donc, moi, les souvenirs que j'ai dans mon enfance, c'est des souvenirs de réunions de famille où est-ce que tout le monde... s'exprime sur ce qui se passe en Haïti ou au Québec, un peu de façon bordélique, tout le monde qui parle très fort, très passionné. Donc, c'est dans ce type de famille-là que j'ai vécu. Donc, je pense que ça vient de là, avec un esprit assez critique sur les grands de ce monde qui dirigent, un amour assez caustique. Pas du tout dupe, qui est capable de se rendre compte que la plupart des puissants en question essayent de faire passer leur propre intérêt pour le bien commun. Donc, d'être très critique à cet égard-là avec beaucoup d'humour, fait que je pense beaucoup d'humour un peu noir, pour faire un mauvais jeu de mots. Mais c'est dans cette famille-là que j'ai vécu. Et à la fin de ma... au début de ma vingtaine, là, j'ai commencé à plus militer dans des organisations, à m'intéresser à cette chose-là, à la chose politique de façon un petit peu plus active.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement particulier qui, à un moment donné, vous pousse à vous engager, quoi. C'était un continuum.
Non, c'est vraiment une espèce de continuité. J'ai toujours eu cet intérêt-là. À l'université, les études que j'ai entreprises m'ont
inspiré. Ce sont des études de quoi, Alexandra? Des études de quoi?
J'ai fait un bac en anthropologie et en développement international. Donc, toutes ces questions des relations nord-sud m'intéressaient beaucoup. Puis petit à petit, je le vivais, mais je me suis rendu compte de façon plus explicite qu'il y avait aussi beaucoup d'inégalités à l'intérieur même des pays, évidemment. J'ai un petit peu plus réfléchi à ça, mais au départ, c'était plus sur les relations nord-sud. Et ensuite, c'est ça, je me suis impliquée, mais il y a vraiment une continuité. Il n'y a pas d'événements particuliers qui ont... ça fait comme partie de l'ADN de ma famille.
Quand on parcourt, Alexandra Pierre, votre engagement, vos prises de position publiques, on voit que vous luttez contre le racisme, discrimination diverse, de nombreuses injustices. Mais ce qui vient de manière permanente, c'est votre militantisme féministe. Est-ce que quand on vous présente comme militante féministe, c'est réducteur ou vous trouvez que ça embrasse un peu tous vos combats?
Ben, ça embrasse un peu tout ça parce que pour moi, le féminisme, c'est l'idée de réfléchir aux injustices structurelles, principalement celles qui touchent les femmes. Mais une fois qu'on a mis notre bras là-dedans, c'est sûr que toutes les injustices ou les systèmes de pression sont tous liés. C'est-à-dire que la façon dont ça impacte les femmes de façon particulière, on voit aussi que c'est pas quelque chose d'isolé, que c'est la façon dont notre système est construit pour toutes sortes de raisons historiques, pour toutes sortes de raisons sociales, qui font en sorte que les injustices qui touchent les femmes sont peut-être pas les mêmes ou pas tout à fait les mêmes, quoi qu'on pourra en discuter, que ceux qui touchent les personnes en situation de handicap ou les personnes racisées, mais ça fait partie d'un ensemble qui crée ce type d'injustice. Fait que pour moi, je pense que ça balaie assez large, même si j'ai une préoccupation particulière pour cette question des femmes ou en tout cas du patriarcat. Notamment, je pense encore une fois à cause de ma famille, parce que j'ai commencé à...
toujours, hein?
Oui, on revient beaucoup à ça, en fait, à cette filiation un peu. J'ai commencé à me nommer féministe très tard, là, début des années 2010, mettons. 2010. Alors que, clairement, quand j'y repense a posteriori, toutes les femmes dans ma famille sont des féministes. Elles disaient pas le mot... ce mot-là correspondait, pas par rejet, hein, mais juste ça ne correspondait pas à une conceptualisation comme ça du monde, mais clairement, elles sont féministes. Je me rappelle de ma grand-mère qui n'arrêtait pas de nous dire, il faut que mes filles et mes petites filles, mes petits-enfants, garçons et filles, mais particulièrement les filles, doivent être éduquées parce que, elle le disait, comme ça, en disant, c'est l'éducation qui va faire en sorte qu'on puisse échapper en quelque sorte à notre condition de femme, de noire, mais aussi de femme noire. Donc, elle avait tout à fait conscience de ça en Haïti avec le colorisme, au Québec avec le racisme. Donc, juste dans ses paroles, dans son attitude, dans les sacrifices qu'elle a pu faire pour donner de l'éducation à ses enfants, particulièrement à ses filles, c'est clair qu'elle était féministe, en tout cas ma définition du féminisme, même si elle le disait jamais. Donc, ça fait longtemps que je suis dans ce type d'environnement-là.
Tout à fait.
Et en 2000, à la fin des années 2000, c'était juste l'étape de prononcer le mot tel qu'il est conceptualisé au Québec, mais c'est clair que j'étais dans une famille féministe.
Et puis, je vois que dans les propos de votre grand-mère, encore une fois, sans le conceptualiser, on voit déjà ce qu'on a appelé après l'intersectionnalité, puisqu'elle parle
de femmes,
de femmes noires, quoi. Les enjeux se croisaient déjà.
C'était très clair. Le souvenir que j'ai de ma grand-mère, pour moi, c'était très clair. Ma mère aussi, ça m'a pris du temps à comprendre pour toutes sortes de raisons, mais qui me disait, t'es une femme noire, elle disait ça à moi et à mon frère, vous allez devoir, c'est le grand classique, travailler plus fort, être irréprochable, vous avez pas le droit à l'erreur. C'est fait de ça. Au début, j'étais comme, De quoi? De quoi tu parles, maman? On est dans un pays libre, avec l'égalité des chances, etc. Je pense pas que je le disais comme ça, mais tu sais, c'est un peu ce que je me disais. Et au fur et à mesure, évidemment, tout ça est apparu beaucoup plus clair et j'ai compris pourquoi elle me disait ça dans ma vie, mais aussi, puis ça, je tiens à le mentionner, après avoir lu le livre de, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais le livre de Robin Maynard, ce Noir sous
Noir
surveillance,
surveillance,
donc
effectivement.
Policing Black Lives, pour moi, ça a été un livre, je l'ai lu ben, dès qu'il est sorti,
Non, moi je
pour
l'ai lu
moi, ce livre.
récemment et pour dire les choses honnêtement, c'est il y a quoi, d'à peine 1 ou 2 ans, la version française, là, quand elle est. C'est
Quand
là.
elle est sortie. Et pour moi, ça a comme rassemblé un peu toutes les, tout ce que mes parents m'avaient dit, le souvenir de ma grand-mère aussi, mais aussi tout ce que j'ai pu vivre de d'inconfort, de est-ce qu'il se passe quelque chose ou c'est juste dans ma tête? Ça a
Oui.
vraiment mis des mots sur tout ça, puis sur la continuité historique de tout ça. Et donc, pour moi, ça a été, en plus de ma famille, ma grand-mère, ma mère et tout ça, ça a vraiment été un livre très important pour un peu mettre des mots et réaliser de façon très lucide cette espèce de système d'oppression, puis ce racisme qui vit encore dans nos sociétés.
Alors, tout ça vous a conduit, Pierre, à travailler à travers divers organismes qui vous ont amené aujourd'hui à être présent au conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés, dont vous étiez déjà membre hein, depuis un certain nombre d'années. Cette nomination a eu lieu là, pendant la période de confinement. Qu'est-ce que la Ligue des droits et libertés, quelle est ou quelles sont ses missions?
Donc, la Ligue des droits et libertés, c'est un organisme communautaire québécois dont la mission, c'est de faire connaître, de défendre, de promouvoir l'ensemble des droits de la personne, droits humains, pour faire un anglicisme, qui sont reconnus par les chartes internationales, mais aussi les chartes canadiennes et les chartes québécoises. Donc, la Ligue existe depuis 1963. C'est vraiment un vieil
Un
organisme
vieil organisme.
communautaire, c'est ça, et qui a vraiment contribué en beaucoup de choses à l'histoire politique et sociale du Québec. C'est la Ligue qui, avec cette mission en tête, donc de faire reconnaître, d'assurer, de faire reconnaître et de s'assurer que les États connaissent et remplissent leurs obligations en termes de droits humains. Donc, elle a participé, par exemple, à l'élaboration de la, ou la, oui, l'élaboration de la Charte des droits et libertés au Québec. Elle a participé, c'est la Ligue, un des organismes qui a initié cette idée de dire il faut qu'on ait une Charte des droits.
Okay.
Charte des droits mise sur pied en 75, puis qui précède même la Charte des droits canadienne. C'est aussi la Ligue qui a demandé à mettre en place la Commission des droits de la personne et le Tribunal des droits de la personne, avec, toujours en coalition. Hein, ça, c'est comme aussi dans l'ADN de la Ligue, jamais seule. Donc, il a demandé de mettre en place ces institutions-là pour pouvoir assurer de façon effective le respect ou en tout cas le monitoring de ce qui se passe en termes de droits et libertés au Québec. Et la Ligue a toujours eu un souci de promouvoir les droits humains pour l'ensemble de la population, mais avec une attention particulière aux groupes marginalisés, avec l'interprétation qu'on peut en faire au cours de l'histoire. Je donne un exemple, c'est toute la question du droit à l'avortement, des inégalités matrimoniales a été au début de la Ligue des droits et libertés un des grands combats. Aussi sur des questions d'inégalité raciale. Ça fait très longtemps que la Ligue travaille là-dessus. Elle a été aux côtés par exemple, des Haïtiens quand il y a eu toute cette dénonciation du racisme dans l'industrie du taxi dans
Merci.
les années 80. Les violences policières, Marcellus François, ces jeunes hommes qui, dans les années 80, sont morts aux mains de la police. Réfléchis aussi à toute la question des skinheads, néo-nazis aussi au milieu des années 80. Le droit des détenus depuis longtemps, le droit des peuples autochtones aussi, toute la question des réfugiés, des sans-statut avec d'autres. Donc, c'est comme une longue histoire de résistance, de combat, puis d'action pour faire en sorte que les droits de tous et toutes puissent se réaliser.
Tout en restant communautaire, je le dis, en comparaison par exemple à la Commission des droits de la personne à laquelle elle a quand même contribué à l'existence, c'est ça?
Oui, toujours avec cette indépendance qui est très chère à la Ligue, donc indépendance politique, indépendance par rapport aux institutions, pouvoir avoir ce regard critique-là, autant sur ben, la police, les différents gouvernements, les institutions publiques comme la protection de la jeunesse. Vous avez nommé la commission, etc. Donc, il y a vraiment cette idée d'indépendance qui est très forte.
Alors là, Sandra Pierre, vous prenez la tête donc du conseil d'administration. Je rappelle que vous en êtes membre depuis quand même un moment. Je n'ai pas vérifié
Oui, depuis 2013, si ma
depuis
mémoire est bonne.
2013, voilà, que vous êtes au sein de la Ligue. Vous prenez la tête de cette Ligue à un moment particulier. Je voulais réduire ça à notre société, mais je vais dire dans le monde. Où l'élément vraiment au-dessus, comme ça, comme on dit, la pointe de l'iceberg a été ce que j'ai toujours appelé l'assassinat en direct de George Floyd aux États-Unis, et où, peut-être pour certains revenus, mais pour d'autres c'est quelque chose de permanent, la question du racisme, la question des violences policières. D'abord, ça paraît très banal de vous demander comment vous avez vécu, oui, cette mort de George Floyd et ce que ça a enchaîné comme manifestation à travers le monde. Comment vous avez vu ça?
J'avoue que ça a été un moment assez pénible. À la fois pénible et à la fois, c'est un peu banal, j'avoue, mais porteur d'espoir avec toute cette mobilisation-là, en plus dans un contexte de pandémie. Mais commençons par la partie plus pénible. Ben, moi, j'ai pas regardé les images. J'ai vu le début, mais j'ai décidé de ne pas regarder ces images-là. Donc, c'est la réitération, pardon, de cette violence-là, qui est pour moi super pénible. C'est le contexte du policier qui clairement s'en fout, les met dans les poches et tout ça. Comment ça symbolise aussi cette indifférence générale face aux inégalités raciales. Puis tu sais, c'est pas le premier épisode, hein. Il y a eu le jogger, depuis les dernières années, des mineurs, des petits garçons qui ont été, des garçons qui ont été tués par la police dans des circonstances aux États-Unis, dans des circonstances terribles. Donc, il y a comme un effet d'accumulation, moi, qui m'est vraiment rentré dedans. Je dois vous dire aussi que moi, j'ai un fils de 8 ans, donc c'est clair que tout ça, y a une dimension particulière en me disant, mais comment est-ce que Yanis va être traité dans cette société qui est la, tu sais, qui est la sienne, il est né là,
Vous avez peur, Alexandra Pierre, pour lui?
Ben oui, quand même. Je suis très inquiète de savoir quelles sont les opportunités qu'il va avoir dans la vie, mais aussi quel type de violence, symbolique et physique, auquel il va être confronté. Donc ça a été une grosse réflexion durant cette période de George Floyd. Et l'autre chose qui m'a aussi énervée, fâchée, déprimée, tout ce que vous voulez. C'est la réaction d'une certaine frange de la population au Québec, de l'élite politique notamment, qui disait, ah, c'est triste ce qui se passe là-bas, mais ici, ça n'a rien à voir, alors que depuis des années, on cumule les rapports, les témoignages, les recherches qui nous disent, oui, il y a des inégalités raciales systémiques au Québec, oui, comme Legault le dit, ça c'est la partie qui dit, il y a du racisme interpersonnel, individuel, avec des insultes, des violences parfois physiques, mais il y a aussi quelque chose d'ancré dans la façon dont fonctionne notre société. Et ça, c'est encore difficile à admettre et je trouve ça extrêmement pénible.
Alors, mais parlons donc, puisque vous avez ouvert cette porte-là, je disais qu'effectivement, il y a eu des résonances ici au Québec où nous vivons. Le Premier ministre Legault dit non, il y a du racisme, il n'y a pas de racisme systémique parce que c'est un mot qui dérange, on va dire ça comme ça.
Ben, moi, je trouve, ben, évidemment, je trouve que c'est un sérieux problème parce que c'est difficile de trouver des bonnes solutions quand on n'est pas capable de faire un bon diagnostic. Tu sais, je prends l'exemple, par exemple, si on a un enfant devant soi, son enfant qui a des difficultés scolaires, c'est pas la même chose de savoir que c'est parce qu'il est myope que parce que il est dyslexique. S'il est myope, il a besoin de lunettes. S'il est dyslexique, on va aller le voir, on va lui faire voir un professionnel. C'est un peu la même chose sur le racisme systémique. Si on n'arrive pas à faire le bon diagnostic, on va complètement passer à côté des solutions. Là, ce que semble nous proposer le comité mis en place sur Legault, ou la façon dont il détaille le problème, c'est de dire le Québec n'est pas raciste. Personne n'a jamais dit ça par ailleurs, mais en tout cas, le Québec n'est pas raciste, mais il y a des racistes au Québec.
Tout à
Donc là, moi, ce que j'envisage, c'est, ça va être des campagnes de sensibilisation. Tout le monde est, c'est, tout le monde est égal. Soyez gentil avec votre voisin. Il faut vivre ensemble. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'on dit à la Ligue, nous, c'est que dans nos pratiques, dans nos politiques, dans nos lois, il y a des choses qui perpétuent les inégalités raciales. Donc, je peux vous donner, par exemple, deux exemples très simples. Toute la question de la... On en a beaucoup parlé. Le profilage racial, ben, le fait que dans les pratiques, dans les politiques et dans la loi, il y a des choses comme le fait que la présence policière, le nombre de policiers sur un territoire a plus à voir avec le nombre de personnes racisées sur ce territoire qu'avec le taux de criminalité. Ben ça fait partie des pratiques à changer. Quand on sait que à l'école de police, on apprend aux policiers à faire du profilage vestimentaire, c'est-à-dire que une personne qui est habillée de telle façon serait soi-disant plus susceptible de commettre des crimes et donc doit être plus surveillée. Mais on sait que ce type de profilage vestimentaire-là atteint les populations noires, les populations racisées, les populations autochtones, que c'est leur style vestimentaire ou ce qu'on imagine être leur style vestimentaire qui va être ciblé. Ça fait partie des pratiques à changer. Et quand on parle de racisme systémique, ça veut dire que peu importe quel type de policier tu es, peu importe si tu es une merveilleuse personne, quand tu arrives dans la police, c'est ça qu'on t'apprend. Donc, ça n'a rien à voir avec ton racisme individuel ou pas, c'est la façon dont ça fonctionne. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est aussi l'éducation. Dans le système scolaire, on sait que les élèves noirs, les élèves racisés, sur la même logique de profilage racial, sont plus surveillés, plus durement punis. Ils ont plus de sanctions du type renvoi ou suspension. On sait que dans les programmes scolaires, on parle très peu de l'histoire des Noirs, on parle très peu de la contribution des personnes racisées à la société québécoise. On parle très peu de l'esclavage. On parle très peu des grands personnages noirs, des femmes noires, des hommes noirs qui ont contribué. On sait qu'il y a très peu de profs et du personnel scolaire, donc d'adultes racisés dans le système scolaire, même à Montréal. C'est ça le racisme systémique. C'est que même si tu arrives et que tu es un prof merveilleux, ouvert, pas raciste du tout, Tu vas quand même appliquer le programme qui ne parle pas des personnes noires, qui ne parle pas des personnes racisées. Tu vas quand même être dans cette logique de sursurveillance des élèves parce que le système fonctionne comme ça. Donc, c'est ça pour nous, le racisme systémique. Ça, évidemment qu'il y a des gens qui sont racistes, je pense que moi aussi, comme Legault, c'est une minorité, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Puis,
Qu'est-ce qui fait?
dernière chose, je m'en bats,
Non,
mais
non, non,
dernière
allez-y.
chose sur le racisme systémique, c'est aussi la réponse des différentes institutions, l'école, la police, la direction, la protection de la jeunesse. Le racisme systémique, c'est aussi la réponse de ces institutions à qui on protège et qui on ne protège pas. Dans le cas de l'école, de dire il y a des gens qui peuvent être racistes à l'école, mais c'est une minorité, certes, mais si cette minorité a le loisir de fonctionner avec ce racisme-là, sans jamais être sanctionné par l'institution, on a un problème.
Tout à fait.
On a un enjeu et c'est ça le racisme systémique.
Qu'est-ce
Et
qui
si on ne
fait?
fait pas ce diagnostic-là, ou si on n'a pas cette compréhension-là, on va être dans la sensibilisation sans jamais changer ses lois, ses pratiques, ses façons de faire.
Alors, comme je parle de l'idée que d'une manière ou d'une autre, Alexandra Pierre, la Ligue des droits et libertés va sûrement être invitée par le comité d'action contre le racisme coprésidé par Nadine Giraud et Lionel Carman va sûrement vous inviter pour discuter. Je comprends que c'est ce discours que vous allez leur tenir quand
Tout
eux
à
ils
fait.
disent que le mot systémique n'existe pas.
Tout à fait. C'est vraiment ce discours-là
Même si vous et
qui
moi, on est d'accord qu'on tourne autour de ça depuis
tourne en rond, là.
moins 10 ans.
Oui, vraiment, en tournant. Puis ce qui est assez étonnant, parce que vous avez noté au début de cette partie de l'entrevue, le fait que j'arrive comme présidente de la Ligue dans un contexte particulier, qui est George Floyd, mais il y a aussi un autre contexte qui est quand même la pandémie. Et avec la pandémie, on voit des inégalités, notamment des inégalités raciales, qui, j'allais dire, émergent. Elles ont toujours été là, mais qui sont accentuées fois 1000 par cette pandémie. Ce qui se passe
Et
avec...
puis à vos solutions systémiques, Alexandre.
Bien sûr, bien sûr. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, à Montréal-Nord, sur cette pandémie, comment les groupes du quartier ont dû se démener pour avoir des équipements, des masques, etc., et des mois après le début de la pandémie, le gouvernement de la santé publique s'est comme réveillé en disant, ah oui, il y a peut-être un enjeu sur ce territoire-là, alors que les groupes sonnaient l'alarme depuis des mois. Pour moi, ça fait partie de ça aussi. Quand on voit aussi qui est préposé dans les maisons pour personnes âgées, dans les CHSLD, qui est exposé de façon surexposée au risque du COVID, dans des conditions de travail exécrables, avec peu de moyens de se protéger, avec des conditions salariales aussi inadmissibles, c'est des femmes noires. Ça fait partie de ce racisme systémique. C'est beaucoup de femmes noires, beaucoup de personnes qui n'ont pas encore leur statut. Hein, ça aussi, ça fait partie des inégalités que provoque notre système d'immigration, dont Ottawa et Québec ont la responsabilité. Tout ça fait partie de ce racisme systémique. Il y a une recherche qui vient de sortir là sur les contraventions reçues lors de la pandémie pour non-respect de la distanciation sociale ou des règles de confinement. Les personnes autochtones, les personnes racisées sont surreprésentées dans ceux qui ont reçu des contraventions. On est dans le racisme systémique, là. Ça exacerbe tout ça aussi, la pandémie. Et pour moi, je suis complètement épatée que ces deux contextes, là, mis ensemble, George Floyd plus la pandémie, qu'on nie encore ce problème-là.
Alexandra Pierre, vous avez parlé de police. Et on sait qu'on a beaucoup parlé de police, de racisme, de violence policière, de brutalité policière, peu importe le mot. Le responsable de ou le SPVM, c'est le service de police de la ville de Montréal, a nié l'existence de racisme et de discrimination, mais reconnaît le caractère systémique. Et là, vous êtes venu en disant qu'ils sont en train de jouer sur les mots. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu le caractère systémique, mais nient quand même qu'il y a racisme et discrimination dans la police. Tantôt, vous disiez qu'on leur apprend certaines, du moins, il y a une vision dans la police qu'on leur apprend. Dites-nous un peu plus sur
Oui,
votre.
ça, c'était vraiment un magnifique moment de communication, là. Donc, l'Office de consultation publique de Montréal a émis un rapport suite à, d'ailleurs, cet exercice citoyen incroyable qui a permis de tenir cette commission sur le racisme systémique à Montréal. Racisme systémique dans le rapport
On a
de...
refusé au provincial, hein, soit dit en
Oui,
passant.
qu'on a refusé au provincial. Dans le rapport de l'Office de consultation municipale de Montréal, c'est clair que le racisme systémique à Montréal, ce qui est intéressant avec ce rapport que je vous invite à lire, c'est qu'il met bien en évidence le fait que ce racisme systémique touche tous les aspects de la vie des personnes racisées, que ce soit le logement, la santé, la façon dont ils peuvent être dans l'espace public, l'emploi, la vie culturelle, le patrimoine de Montréal, etc., etc., etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire que près d'un cinquième des recommandations sont directement en lien avec la police. Donc, la police de Montréal a réagi en disant, nous reconnaissons le caractère systémique du racisme et des discriminations et nous ferons tout pour pouvoir y remédier. Nous, à la Ligue, on avait comme on a lu ça, on a lu, et on s'est dit, mais voyons, ils parlent de la discrimination systémique, du racisme de façon très générale, sans jamais mentionner ce qui se passe dans leurs propres troupes et au sein du SPVM, alors que depuis des années, je dirais minimum 15 ans, on parle de cette histoire de profilage racial. Et pour nous, c'était un peu le symbole ou l'illustration du manque de leadership, non seulement du SPVM sur ces questions-là, mais aussi du problème qu'il y a entre le conseil municipal et le SPVM, c'est-à-dire que le SPVM est redevable au conseil municipal. Et ils sont, peut-être que ça va changer avec le rapport, mais il y a clairement un manque de volonté politique pour mettre au pas le SPVM, c'est-à-dire pour leur dire, ça suffit, ça ne peut plus durer comme ça, il faut prendre des mesures, on n'a plus besoin de rapports, on a besoin d'actes concrets pour que le profilage termine, pour que ces discriminations répétitives, systémiques, on y met fin. Puis il y a plein de solutions, là. C'est pas comme s'il n'y avait pas de solution.
Selon vous, qu'est-ce qui justifie cette absence de volonté politique?
Je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a aussi la façon dont la police, enfin, la fonction de la police en elle-même, c'est une fonction répressive. Historiquement, la police en Amérique du Nord, comme ailleurs, a ciblé particulièrement les populations racisées, les populations autochtones, notamment, pas juste, mais notamment en lien avec l'histoire d'esclavage, pour pouvoir faire en sorte que les personnes noires, les personnes autochtones obéissent à leur maître, finalement. Mais il y a beaucoup de choses, je pense, qui fait que dans la culture de la police, cette institution-là est fondamentalement problématique en termes d'inégalité raciale. Après, je pense qu'il y a toutes sortes de raisons, mais ce qui est sûr, c'est que la Ville de Montréal, le conseil municipal, a en main toute tout le pouvoir qu'il faut pour pouvoir agir sur cette question de discrimination systémique dans la police comme ailleurs. Et j'ai très hâte de voir comment va se mettre en place ce poste de commissaire et quelles seront les prochaines étapes pour enfin en finir avec ce problème-là, ou en tout cas commencer à appliquer des solutions très concrètes.
Je n'ai pas posé la question au début. Votre mandat à la tête du CA, il est de combien de temps?
2 ans.
Et oui. Éventuellement renouvelable, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Disons déjà qu'au moins dans les 2 années à venir, là, vous allez être pas mal occupé.
Pas mal occupé avec ces histoires de racisme, profilage, etc. Mm-hmm. Mais le champ de la Ligue est tellement plus large et avec la fin potentielle de la pandémie, le déconfinement, va venir la question de l'après et comment faire en sorte que tout ce qu'on a vu émerger ou s'aggraver durant la pandémie en termes de droits humains, que ce soit en termes de surveillance des populations, de droits économiques et sociaux, de racisme, on en a parlé beaucoup, les situations dans les prisons, les droits des peuples autochtones, toute la question de l'environnement. Donc, ça va être des enjeux sur lesquels on va être très attentif.
Alexandra Pierre, j'aurais eu tellement d'autres sujets encore, vous venez de les citer, hein, qu'on aurait pu aborder, mais bon, vous entamez seulement votre mandat, donc j'ose croire qu'on va se parler quand même pendant vos 2 années de mandat au minimum. On va se parler pour savoir un peu quelles sont vos positions sur plusieurs sujets de la société. Merci à vous de...
Merci pour l'invitation et au plaisir de reprendre ces discussions.
Et puis, comme on dit chez nous, ne lâchez surtout pas.
Non, on ne peut pas. Il faut.
Voilà. Merci à vous.